Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai changé de titre, j'ai un peu focalisé, précisé, et j'ai un peu élargi le corpus. Moi, je profitais finalement des contraintes du cadrage des organisateurs du colloque pour échapper à Balzac, Flaubert et compagnie et explorer un domaine que je ne connais pas. Donc voilà, c'était excitant pour moi-même. C'est-à-dire une sorte d'enquête débutante sur le roman policier classique, ce qu'on appelle les romans à énigmes, que je pourrais appeler aussi les récits à secret ou les récits à mauvais signe, finalement. Alors, vous le verrez dans l'exemple hier avec Toverso, le petit corpus est constitué d'un texte de Poe, de Gaborio, de Conan Doyle et deux textes d'Agatha Christie. Donc, je ne fais pas défaut à Agatha totalement. Alors, s'il est un point consensuel parmi les critiques du genre, roman policier, c'est bien le suivant. Un polar, c'est un assassin. Une victime, un détective. J'ajouterai même tout de suite une communauté. Mais la véritable énigme pour moi, c'est, à ma connaissance du moins, l'extrême rareté des études consacrées aux cadavres. Et bon, pas le charognard, mais... Alors, je dirais que cet angle mort de la critique ne laisse pas de surprendre et d'interroger, alors même que le roman policier semble ne pas se désaffilier de la mimésis aristotélicienne, sa poétique et son esthétique. Je vous rappelle qu'au tout début de la poétique, on peut lire d'Aristote, « Nous prenons plaisir à contempler les images les plus précises des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité. » Et il donne deux exemples, « comme les formes des monstres les plus répugnants et les cadavres, qui peuvent être même monstrueux. » L'imitation, poursuit Aristote, procurera le plaisir, le fini dans l'exécution, la couleur ou une autre cause de ce genre. Alors, devant cette espèce de paradoxe, si vous voulez, je me suis dit que, bien sûr, dans les cultures modernes des mondes occidentaux, la présence du mort, même du mort de papier, si je puis dire, est intermittente, voilée, absente, refoulée, ce qu'on voudra. Et donc il y a comme une mutation anthropologique du rapport à la fois physique et comme ontologique au mort. Et cette mutation est décrite entre autres par Walter Benjamin, vous en souvenez, la référence bibliographique est dans l'exemplier. Benjamin suggère les grandes lignes de cette évolution historique et interroge cette mutation, pas un historien seulement, mais dans ses liens ombilicaux avec l'imaginaire de la fiction, des fictions. Je cite rapidement, « Au cours du 19e siècle, la société bourgeoise, avec ses institutions hygiéniques et sociales privées ou publiques, a réalisé inconsciemment peut-être son but principal, donner aux gens la possibilité de dérober les mourants à tous les regards. L'acte de mourir, autrefois l'acte le plus public de la vie individuelle, au cours des temps modernes, est soustrait de plus en plus à l'attention des vivants. » Bon, l'agonie, c'est pas le cadavre, ouais, mais « Jadis, il n'y avait pas une maison, » à peine une chambre où quelqu'un ne fut déjà mort. Or, la mort est la sanction de tout ce que le narrateur peut raconter. On l'a vu, on l'a entendu depuis 3 jours en fait. C'est cette autorité qui est à l'origine du récit, dit Benjamin. Alors, cette pensée sauvage de la littérature s'introduit de bien des manières dans le roman policier classique. C'est mon propos en fait. Je donnerai pour premier exemple ici cette sorte de transaction discursive avec le monde mythico-rythique, et pas simplement la mythologie convenue de la ville moderne, mais bien l'intertextualité de l'univers imaginaire des contes, par exemple. Il suffirait de se pencher, ce que j'ai fait en fait, plus que sur l'affaire de style, un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie, et là vous avez les références, le texte... Un exemple, je vais aller assez vite, pour suivre les traces d'une héroïne de conte, pour suivre les traces de notre monde en quelque sorte, Cendrillon. Sur la vieille peau d'ours, c'est l'extrait numéro 1. Placé devant la cheminée, était étendu le corps superbe d'une jeune fille aux cheveux artificiels, dont les savantes bouclettes encadraient le visage. Vous voulez parler de la toilette de la morte, elle était habillée pour un bal, elle était Virgo intacta. Et un peu plus loin, Cendrillon, transformée en princesse au cours d'une nuit, ajouta-t-il en riant, au lieu d'une marraine de contes de fées, juste était le parrain, pourquoi pas, tout ce que je touchais se transformait en or, etc. Alors c'est une Cendrillon sans doute démythifiée, presque réduite en cendre, si je puis dire, mais le feu couve sous la cendre, comme on sait. J'observe que, au fond, le schéma culturel dans le programme narratif et idéologique de l'enquêteur, son paradigme indiciaire, son épistémologie professionnelle, son discours de la méthode sur l'observation, sur l'art de conduire une pensée rationnelle et déductive in situ, son refus positiviste de nier ce qui est, d'expliquer ce qui n'est pas, etc. L'allusion à Poe, Ce programme narratif idéologique de l'enquêteur entre en belligérance avec une autre cosmologie qui est constitutive, elle aussi, du discours du roman policier. Le discours policé par l'intellect, appelé le logos, ne saurait, pour des raisons constitutives de genre, ignorer les turbulences de l'émotion, du pathos, finalement. On va appeler le tremblement des ombres et des lumières, l'ombre des lumières, y compris dans la dénégation humoristique, ça va être la station 2, y compris dans la dénégation humoristique de la part maudite de sa propre culture. Citation un peu longue. « Basile, tu ne connaissais pas cette fille, n'est-ce pas ?»« Oh, si, si, il la connaissait, intervint Miss Marple. »« Taisez-vous, vieille fée !» s'écria Basile d'un air farouche. « Cette vieille baderne de père Bantry a toujours l'air de se moquer de moi. Il en ferait une tête en découvrant le cadavre d'une jolie blonde sur sa carpette. Ce serait un bon tour à lui jouer. »« Oui, oui, fille, Miss Marple. » Le petit Tommy Bond avait eu à peu près la même idée. C'était un garçon sensible, à l'excès et très timide. Il se plaignait que l'institutrice soit toujours sur son dos. Il cacha un jour une grenouille dans l'horloge et la bestiole sauta au nez de la maîtresse d'école. « Vous avez fait comme lui, Basil Blake. » Il est soupçonné du meurtre. « Seulement, les cadavres ne sont pas des grenouilles. » Alors, ce cadavre, autour de ce cadavre, ce que Bossuet appelait ce grand gouffre du néant, autour de ce cadavre rôde toujours une inquiétante interrogation anthropologique, car tôt ou tard, évidemment, l'insignifiance physique le disputera à une sorte de métaphysique du langage. Je cite Bossuet dans le Sermon à la mort. « Il n'y aura plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes. La chair changera de nature, le corps prendra un autre nom. Même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps. Il deviendra un je-ne-sais-quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. » Alors, ainsi compris, dans le roman policier, le cadavre, c'est en somme possiblement le signifiant latent ou subliminal par excellence, ou peut-être mieux le signifiant disséminé comme diagrammatisé. Il me semble d'abord significatif que dans le roman de mon petit corpus, je l'admets, le rite de l'enterrement soit absent ou escamoté. La dépouille mortelle ne fait d'ailleurs jamais l'objet d'aucune cérémonie religieuse dans le monde décrit par ces romans, où les prêtres même semblent ne pas exister. Voici comment, c'est exemple 3, Agatha Christie expédie la chose dans la mystérieuse affaire des styles. L'enterrement de Madame Inglethorpe eut lieu le lendemain, boum, et le lundi, lorsque je suis descendu assez tard pour déjeuner, John m'attira de côté et m'affirma que Monsieur Inglethorpe partait le matin même dans le soulagement général. Causé par le prochain départ, dit, nous fîmes le déjeuner le plus gai que nous, etc. Bon, donc c'est assez bâclé comme rite d'enterrement. À vrai dire, le mort, comme on l'a vu en fait ce matin aussi, le mort du polar n'est ni bien enterré, ni bien mort. Alors bien, il faut s'entendre ce que veut dire bien mort. Je résumerai rapidement la proposition en citant Lévi-Strauss, passage fameux des vivants et des morts, triste tropique. Lévi-Strauss, il n'existe probablement aucune société qui ne traite ses morts avec égard. Certaines sociétés laissent reposer leurs morts. Moyennant des hommages périodiques, ceux-ci s'abstiendront de troubler les vivants. Tout se passe comme si un contrat avait été conclu entre les morts et les vivants. En échange du culte raisonnable qui leur est voué, les morts resteront chez eux. C'est le thème, Lévi-Strauss, du mort reconnaissant. À cette conception, ça nous pose une autre, où le mort est objet, non plus sujet. Elle leur refuse le repos. En Europe, où les morts sont devenus apathiques et anonymes, le folklore conserve des vestiges de la croyance qu'il existe deux types de morts. Là où il y a les bons morts et les mauvais. Ceux qui ont succombé à des causes naturelles et qui forment une cohorte d'ancêtres protecteurs, tandis que les suicidés, les assassinés ou les ensorcelés se changent en esprits malfaisants et jaloux, etc. Qui ne voit, me semble-t-il, dès lors que la malemort, on dit aussi comme ça, est justement le sort des assassinés. C'est ainsi qu'il faudrait se tourner vers l'histoire longue des imaginaires de la mauvaise mort et des mauvais morts. Je prendrai comme passeur au guet du destin funeste juste un extrait d'Homère. C'est Hector qui va parler. « Malheur à moi, voici que les dieux m'appellent à la mort, la mauvaise mort est proche. » Achille dit alors à Hector, « Va, les chiens et les oiseaux te déchireront honteusement. Jamais la mère vénérable qui t'a enfanté ne te pleurera couchée sur un lit funèbre. » Parla ainsi et il outragea indignement le divin Hector. Il lui perça les tendons des deux pieds entre le talon et la cheville, et il y passa des courroies, et il attacha derrière le char, laissant traîner la tête ensevelie dans la poussière, outragée sur la terre de la patrie. Jean-Pierre Vernant, vous en souvenez, j'ai donné un extrait, 4, je ne vais pas le lire, a commenté magnifiquement en son temps l'opposition entre belle mort, mort naturelle ou belle mort et cadavre outragé. Si je résume la littérature anthropologique de Vernant et d'autres sur le sujet, la mauvaise mort, le mauvais mort, c'est selon moi, on peut le critérier en 7 points, peut-être plus, mais pour l'instant j'en ai trouvé 7. 1, c'est la mort solitaire, la mort soudaine, la mort prématurée, la mort violente, la mort injuste, la mort déshumanisée au sens où le cadavre est devenu anonyme. Il sort de l'identité humaine, et c'est la mort déritualisée. Il n'y a pas de trépas, il n'y a pas de cérémonie. Et alors c'est là le nœud de mon hypothèse. J'observe que le mort du roman policier correspond pour tout ou partie à ces 7 critères. Je me bornerai ici à quelques exemples rapides, sachant que, évidemment, dans les récits policiers, selon les époques, les esthétiques, la description du cadavre est soit elliptique et très localisée, une sorte de censure douce, soit au contraire hyperbolique et même à la fois profuse et diffuse. On se contentera peut-être de relire la description du corps outragé dans Poe, un double assassinat dans la rue Morgue, c'est l'exemple 5. Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. La face de la jeune dame était affreusement décolorée et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié, je m'excuse pour après-repas. Le corps de la mère était horriblement mutilé, tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés, le tibia gauche brisé en esquive, ainsi que les côtes. Du même côté, tout le corps est affreusement meurtri et décoloré. Voilà, qu'est-ce que je fais de ça ? Je propose de dire que la structure narrative du roman policier repose sur une mise en coprésence, d'une part, d'un univers discursif serait sourdement affilié au système symbolique mythico-magico-religieux, enfin je veux dire ceux qui s'intéressent aux enjeux post-mortem du corps, et coprésence avec des conduites modernes et savantes d'interrogation, plutôt technico-cliniques du cadavre, qui elles relèvent des nécessités humaines, enfin de l'enquête. On peut citer l'exemple 7, Edgar Poe encore, Paul Dumas, cette espèce de division du travail, si vous voulez. Paul Dumas, médecin, dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. C'est technico-clinique. Hein. Alexandre Etienne, chirurgien, a été appelé en même temps que Dumas pour visiter les cadavres. Il confirmera le témoignage et l'opinion de Dumas. Dupin a analysé minutieusement, c'est l'enquêteur, toute chose sans accepter le corps des victimes. Il me semble que la poétique violente ou affadie du roman policier serait ainsi le résultat de ce dialogisme qui se manifeste dans l'hétérogénéité culturelle des personnages d'un côté et plus souvent des enquêteurs professionnels de l'autre, c'est-à-dire la pensée magique des affects pour les uns, la pensée hypothético-déductive et l'intellect pour les autres. Et sur le plan narratif, cette partition rendrait compte aussi de la distribution des réactions des différents types de personnages et du narrateur lui-même, d'ailleurs, devant le cadavre. Prendre peut-être la citation numéro 9. « Ce n'était pas un débutant, ce commissaire, et cependant il ne put maîtriser un mouvement d'horreur en pénétrant dans la salle de la poivrière. Le sergent-major du 53e qui le suivait, un vieux brave médaillé et chevronné, fut plus impressionné encore. Il devint aussi pâle que le cadavre qui était là, à terre, et fut obligé de s'appuyer à la muraille. Seuls les deux médecins furent stoïques. » Alors, plus subtilement, il me semble que ce dispositif travaille la lecture et le lecteur qui, en toute intranquillité, investit ces fictions où le cadavre est peu ou prou présent. J'en prends 3 exemples. La présence discursive du mort, donc du cadavre, et non enterré, c'est d'abord l'anamnèse même du récit qui narre la vie du mort depuis sa découverte factuelle sous sa forme cadavérique et remonte le fil, souvent embrouillé, de sa vie, proche ou lointaine. Le cadavre fait aussi retour textuel, passible, ici et là, au gré des témoignages, des supputations des voisins, des observations in situ des professionnels de l'enquête et de l'affaire criminelle. Peut-être plus subtilement, c'est surtout dans ce que j'appellerais la cosmologie du texte, le système culturel du texte, qui est présent ce cadavre. Jacques Dubois, dans son fameux livre sur le roman policier ou la modernité, dans le chapitre consacré au système des personnages, consacrait une 20aine de lignes à la victime. Cadavre-victime, enfin. Et il conclut en disant « Défunte, la victime est bien, en plus d'un cas, le fantôme du texte. » Cadavre confortable. Alors, le fantôme du texte, je trouve qu'il se débarrasse du cadavre, justement. Hein. Et si, je m'appuierai essentiellement sur un cadavre dans la bibliothèque, avec 3 types de remarques pour tracer une espèce de cartographie du continuum entre les morts et le vivant, cadavre et les vivants, justement. Alors déjà, par métonymie, dans le titre, un cadavre dans la bibliothèque est préprogrammé l'idée qu'il y a du lecteur. C'est d'ailleurs textualisé dans le texte aussi, qu'il y a une continuité, ou une contiguïté en tout cas, entre livre, lecteur et cadavre. Deuxième type de remarque, sur cette cosmologie du texte et cette présence du cadavre, c'est autour des possibles narratifs. Il y a toute une série comme ça, de temps à autre, qui vient rappeler que le cadavre est là, si vous voulez. Alors, par exemple, je prends un exemple chaque fois, des micro-expressions figurées, pâle comme un cadavre, on l'a vu, ou ne pas avoir de sang dans les veines, etc. Deuxièmement, sur ces possibles narratives, des micro-discours sapientiels. Alors, par exemple, dans le cadavre de la bibliothèque, la mort subite peut frapper les plus solides. Et ça va aller en général, y compris donc imaginairement le lecteur, où il est impossible de prévoir exactement le genre de mort qui vous guette. Toujours dans ces possibles narratives, des ébauches de script ou de scénario. Exemple, quand on a commis un meurtre, on ne recule pas devant un second, ni même devant un troisième. Tout est possible. Et donc, vous voyez, les cadavres peuvent éventuellement, à l'économie, s'accumuler en fait. Et dans ce scénario-là d'Agatha Christie, il y a même une substitution de cadavres. C'est-à-dire que Ruby n'est pas Ruby, mais elle est Pamela, et Pamela n'est donc pas Ruby. Donc si A peut être B, B peut être X, et X, ça peut être tout le monde, dont le lecteur, etc. Si on joue le jeu, si vous voulez. Et enfin, puisqu'on est ici au symposium de sociocritique, je dirais que le cadavre, c'est aussi la socialité, c'est-à-dire la communauté, la société des morts et des vifs. Alors on a deux ou trois figures que je vais résumer rapidement. Par exemple, la figure de l'alter ego. C'était une jolie fille, c'est le cadavre. Je croyais retrouver en elle une autre Rosamund. Rosamund, c'est la femme de Mr. Bantry qui avait peut-être des vues sur une jeune fille. Bon. Donc il y a des effets comme ça de miroir, d'anamorphose, comme on a dit ce matin. Alors il y a des effets d'alter ego, des effets de double ou de miroir. On retrouve la description du cadavre dans sa robe, avec les cheveux platinés, des lèvres écarlates et du rimel sur les cils. Et puis, évidemment, 20 pages plus loin, il y a une jeune femme qui arrive chez un don juan du village et qui est elle-même lèvres écarlates, cils enduits, bon, mort-vivant, vivant-mort, etc. Il y a une espèce de brouillage, y compris avec les poupées qui circulent, etc. Bon. Et la socialité, c'est enfin le déni des morts, le déni de la mort. Il y a dans « Il a dominé son malheur en refusant d'admettre la mort des siens ». Ils existent toujours pour leur père. C'est un miracle de la foi. Vous voyez, ce déni de la mort. Ils sont morts, mais vivants. Je voulais donner un coup d'éponge sur l'ardoise de mon passé. Non, c'est impossible. Alors, déni de la mort, déni de la mort des proches, ou refoulé. Elle s'est révoltée contre l'obligation de vivre avec le passé. Et tout se joue autour du veuvage, du remariage, de leur... Alors, s'il y a veuf et remariage, il y a aussi des orphelins, etc. Donc, il y a la place du mort tout le temps. C'est habité, voire hanté par la crainte des morts. À un moment, il y a la femme du pasteur, Griselda, qui dit, une espèce d'emblématique, si vous voulez, « Mon rejeton ne peut marcher qu'à reculons. » Voilà, donc assez régulièrement, on a le mort dans le vif comme mort, le déjà mort, la peine mort, le mort à venir, une espèce... Alors, par rapport à Fantôme dans le texte, je vais en finir, ce que j'appellerais moi plutôt, en plus le thème, c'est le bal, une danse macabre. C'est une danse macabre scripturaire, si vous voulez. Le roman policier, me semble-t-il, dans sa dynamique discursive spécifique, ce que j'ai étudié, dit classique, aussi en somme entre la figure plus ou moins hallucinatoire d'un mort redevenu vivant et d'un vivant déjà mort, c'est une espèce d'art baroque de l'anamorphose qui crée une sorte d'effet d'inquiétante étrangeté au corps même de la domus. Je vous rappelle Freud, Am Amilich, serait en fait tout ce qui aurait dû rester caché, secret, mais se manifeste. Au plus haut degré, c'est tout ce qui se rattache à la mort, au cadavre, à la réapparition des morts. Il n'y a guère en fait d'autre domaine dans lequel notre pensée et nos sensations, dit Freud, se soient aussi peu modifiées depuis les temps primitifs, sous un léger vernis que nos relations à la mort. Et donc cette inquiétante étrangeté, ou cette familiarité étrange, ce n'est pas une traduction, peut s'insinuer jusque dans les signes et les intersignes du récit, et là je vous... que vous renvoyez à ce que j'ai essayé de manifester dans l'exemple 11 autour du mot bizarrerie chez Poe. J'ai fini 30 secondes. Donc, voilà, pour moi, le lecteur diligent accomplirait ainsi le programme implicite de cette sorte de coïncidence des contraires et ou ce croisement des extrêmes qui est à proprement parler le mutos du récit policier. Et je cite pour terminer le Lévi-Strauss de l'origine des manières de table, du mythe au roman. Le passé, la vie, le rêve charrient des images et des formes disloquées qui hantent l'écrivain quand le hasard ou quelque autre nécessité préserve ou retrouve en elle les contours du mythe. Le roman n'est-il pas toujours cela? Pourtant, le romancier vogue à la dérive parmi ses corps flottants. Il recueille ses matériaux épars et les réemploie. Dans tous les cas, le héros du roman, c'est le roman lui-même. Il raconte sa propre histoire. Il est né de l'exténuation du mythe sans pouvoir retrouver le secret d'une fraîcheur ancienne, sauf peut-être, je crois que c'est là où certains romans policiers peuvent se trouver vie, sauf peut-être en quelques refuges où la création mythique reste encore vigoureuse, mais comme à son insu. Voilà, telle serait selon moi l'une des sources vives du réalisme policier, ce genre de roman dont l'imaginaire compris s'épanouit sur le cadavre exquis de la mimésis. Merci.